Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut la team Extraterrien, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. On se retrouve avec Juliette Villemann, une skieuse de freeride qui a longtemps évolué sur le Freeride World Tour. Le Freeride World Tour, c'est difficile à prononcer déjà, mais c'est surtout le championnat des freeriders et des freerideuses dans lequel les skieuses, les skieurs sont notés pour faire les descentes les plus raides et les plus risquées. Juliette, elle a même atteint la 4e place en 2021. Ça sera sa meilleure position puisqu'en 2022, elle ne prend plus de plaisir, elle ressent beaucoup moins l'envie de faire des compétitions. Elle ne se sent plus du tout libre dans cette discipline. On a parlé de remise en question, de rebond, de se lancer dans un nouveau projet, puisqu'en effet, elle a su rebondir. Et elle s'est lancée dans le projet de créer un film qui sera d'ailleurs un grand succès puisqu'il a été sélectionné dans les plus grands festivals de films de montagne et de ski, et notamment Montagne en scène, le plus prestigieux, dont je suis un grand fan et j'assiste assidûment à toutes les représentations, je l'avoue. C'était une discussion passionnante avec de l'artistique, du sportif, du développement personnel, vraiment plein de sujets. On a balayé, moi je me suis régalé avec Juliette et je vous recommande d'aller voir son film Rise si c'est toujours pas le cas, que vous pouvez retrouver dans les différents festivals de films de montagne. Je vous embête pas plus et je vous souhaite une bonne interview. Ciao. Eh ben écoute, je suis ravi d'être là, Juliette. Ça me fait hyper plaisir. Et toi, ça va ?
Moi aussi, je suis contente d'être là. Hein. Ouais. Ça me fait grave plaisir d'être là aussi, bon, à Paris.
Ouais.
C'est rare, c'est une fois par an.
je suis honoré que tu viennes me voir pour ce passage annuel.
Donc... Merci de m'accueillir dans ton sens si beau local.
Ouais. Mais écoute, tu seras réinvité à venir dans quelques...
Non, c'est trop bien.
Quelques années pour quand tu seras encore plus pimpé. Mais ouais, du coup, ouais, t'es en pleine, enfin, tu débutes la promotion de ton film qui s'appelle
Rise,
qui est à voir comment, où, pour tous les auditeurs.
Alors là, pour le moment, en ce moment, on est sur une tournée. Donc, le festival s'appelle Montagne en scène.
Ouais.
En fait, les diffusions du film, elles ont attaqué début octobre au Hi5 Festival. Il y a eu la première. Et après, j'ai fait un autre festival qui s'appelle Wheel of Popo. Après, j'étais sur d'autres festivals, le film était sur d'autres festivals, mais j'y étais pas. Et là, du coup, jusqu'au 18 décembre, c'est Montagne en scène. Et il y a en tout plus de 300 dates, dont plus de 150 en France.
Ouais.
Donc, il y a pas mal de dates.
Tu pourras pas y aller tout le temps.
Non, je les fais pas toutes. Je les fais clairement pas toutes, j'en fais déjà une quinzaine, c'est pas mal.
Bah ouais, chapeau. Bah écoute, j'ai hâte que tu me parles de ça. Tiens, on pourrait attaquer direct, mais c'est ton premier film, on va dire, on va pas vraiment dire solo, mais en tout cas dans lequel tu es l'actrice principale. Je sais pas comment on dit d'ailleurs.
Ouais, si tu peux dire, c'est mon premier film à moi. Et j'ai fait partie d'autres films, j'ai été skieuse dans d'autres films avec des copains, des copines, pendant les 4 dernières années.
Ouais, ok.
Donc c'est mon premier film où je suis l'actrice principale, je sais pas comment dire, la protagoniste principale et où je fais partie de la réalisation du film,
okay.
De la production du film.
Ok, ouais. Et donc c'est la première fois que tu fais une promo aussi intense?
Ouais, c'est la première fois que la promo elle est si intense et on s'attendait pas à tout ça et c'est vraiment cool parce qu'on n'avait pas prévu d'avoir un projet qui prenne tant d'ampleur et en fait le rendu final a fait que ça a plu aux gens, aux premières personnes à qui on l'a montré. Puis derrière on a été contacté, on a demandé des festivals, on a été contacté par d'autres festivals qui ont vu les teasers et tout ça et du coup c'est pour ça que ça a pris toute cette ampleur là. Et du coup, malheureusement, le film, il n'est pas dispo avant fin janvier sur, okay. sur Internet, mais d'ici là, il y a encore plein de dates, ouais, c'est vraiment cool.
Ok. Quand tu dis que vous ne vous attendiez pas à ce qu'il y ait autant d'ampleur, c'était parce que c'était une nouveauté pour toi, parce que ce n'était pas le projet initial qu'il ait autant de succès, c'était...
Ben, en fait, on était parti. Bon, dans tous les cas, on voulait faire un bon projet. On était parti sur quelque chose de. Enfin, notre idée, elle était cool de base.
Ouais.
Et on s'était dit, voilà, on fait un projet. Donc, moi, on expliquera après comment j'ai fait pour démarcher la boîte de production, tout ça. Mais moi, je suis arrivée avec mon premier projet. Et on s'était dit, c'est cool. Voilà, comme premier projet, ça va être trop bien. Enfin, on fait un petit truc. À la base, on était parti plutôt sur une dizaine de minutes, entre 10 et 15. Et en fait, il en fait 22.
Okay.
Du coup, le rendu de l'hiver a fait qu'on a eu plus de contenu, donc c'était génial par rapport à ça. Et en fait, au montage, les gars ils se sont aperçus qu'en fait le film il pouvait être vraiment vraiment cool. Et du coup, et aussi au courant de l'hiver, le projet a changé. En fait, le projet initial était pas le projet final parce qu'en fait on n'a pas eu de neige l'hiver dernier. Et du coup, on a dû faire avec ce qu'on avait et les conditions qu'on avait. Et du coup, les choses que j'avais prévues en début de saison, j'ai pas pu les faire. Et en fait, ça a finalisé sur d'autres faces, d'autres aventures, d'autres perspectives. J'ai vécu l'hiver comme j'ai pu et avec des aléas, des moments de joie, de malheur. Du coup, tu t'adaptes. Et en fait, le rendu final a fait que c'était trop bien. Enfin, c'est ça.
Ok.
Et c'est pour ça qu'on s'est fait sélectionner. Enfin, ça a l'air de plaire. Écoute, je sais pas si on a été pris à ce temps de date. C'est pour ça.
Trop cool. Bon, bah, vas-y, on est dans le vif du sujet. J'ai trop envie de savoir. Là, tu me dis que c'était une vraie épopée, ce film, qu'il y a plein de choses qui ne sont pas passées comme prévu. Comment est-ce qu'elle est née, l'idée de ce film?
L'idée de ce film, elle est arrivée, on va dire, en début d'automne dernier, fin d'été, début d'automne. Je commençais à me pencher sur le sujet. J'avais vraiment envie de faire un premier truc. C'était ma première saison sans compétition.
Okay.
Du coup,
c'était décidé.
J'avais décidé que j'allais arrêter. Et du coup, j'ai donc avec mon manager, on parlait de faire un projet, tout ça. Il m'a dit, pose-toi, réfléchis à ce que tu veux faire, dans quel axe tu veux aller. Et du coup, ça m'a pris un peu du temps, hein, parce que ça arrive pas comme ça non plus du jour au lendemain de voir ce qu'on veut faire. Et pas faire un truc trop centré sur moi, enfin trop égocentrique non plus et machin. Et du coup, je suis arrivée avec une première idée qui était à la base de skier des belles faces en montagne avec tout ce qui est un peu vu de l'extérieur, par quoi on passe, quel est l'apprentissage pour y aller, machin et tout. Mais des plus grosses faces, tu vois, j'avais vraiment envie de skier des grosses faces en skiant vite, on va dire.
Ce que tu n'avais pas encore fait.
Des phases que j'avais pas encore faites et en fait c'était bien, ça me mettait des objectifs aussi, tu vois, je m'étais dit 7 phases ou 6 phases dans l'hiver et du coup c'était cool aussi, hein, dans l'idée, premier hiver sans compète, au moins tu te mets des objectifs, tu sais que toi tu pars pas sur une feuille blanche non plus en début d'hiver, t'as quand même des étapes dans l'hiver et tu vas pouvoir agrémenter ton entraînement plus ou moins entre guillemets par rapport à ça, ou tes dates quoi, ou tes mois, tu sais que au mois de juin de janvier tu vas faire ça, février tu peux faire ça et tout, sauf que il y a pas une neige. Bref, mais ça on en parlera après. Et donc du coup elle est née au début d'automne, cette idée.
Ouais.
Et en fait après, donc pour créer un film, en gros, il te faut une boîte de production ou un filmeur et un réalisateur ou un filmeur réalisateur. Et en fait moi j'avais déjà vu beaucoup de films d'une boîte de production qui s'appelle Cluster Film. Ça s'appelait pas comme ça avant, mais maintenant c'est leur nom, avec Maxime Moulin et Frédéric Rousseau, qui sont caméramans et réalisateurs et producteurs.
Très connus d'ailleurs dans le monde du ski.
Exactement. En fait, ils avaient fait beaucoup de films avec Sam Favret. Enfin, ils ont réalisé les films de Sam Favret, qui est un ami qui habite à Chamonix et qui du coup a fait que j'ai vu tous ces films et du coup j'aimais trop le travail qu'ils faisaient et je me suis dit en fait j'ai envie de les contacter eux.
Okay.
Donc on a monté un dossier avec mon manager, en gros un dossier projet, en fait après on les a démarchés et en gros j'étais prête à démarcher plusieurs boîtes aussi, j'avais d'autres idées mais c'était eux en premier et en fait j'ai direct eu une réponse positive à ma demande et c'est à partir de là c'est parti et du coup eux ils sont arrivés avec un projet de leur côté aussi, enfin un projet. Une idée de projet. Ils ont rebondi un peu sur mon idée. Ils ont amené un peu ce qui est... Enfin, ils m'ont dit ce qu'eux, ils pensaient aussi. Ils sont arrivés avec des idées, donc c'était vraiment cool.
Okay.
Et donc, de là, on a monté un vrai dossier de prod, quoi. Et bon, après, voilà, tu pars dans la recherche de budget, tout ça. Et après, c'était le temps de skier. Et il n'y avait pas de neige.
Voilà. Et... Juste pour bien comprendre la démarche un peu artistique, tu vois, de réalisation, toi, tu les contactes, t'as déjà, quelques pages d'une trame que t'aimerais bien faire ou d'un objectif de pente à skier et à filmer. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Ils vont rapporter, le côté un peu, le ton du film, tu vois, un peu la dynamique que tu vas avoir avec la musique ou le grain de l'image. Comment est-ce qu'ils améliorent, en fait, ton projet, tu vois?
En fait, c'est génial de bosser avec des boîtes de prod comme ça parce que, en fait, dans la boîte de production, ils sont plus que deux. Hein. Ils sont, je crois qu'ils sont 4 ou 5. Et du coup, t'as Max et Fred qui sont surtout caméraman, réalisateur, producteur. Et après, t'as Jérôme Lado qui en fait écrit des scripts, qui écrit des histoires, quoi, qui raconte. Okay. Et en fait, du coup, donc ils ont bossé ensemble sur la création du dossier, en gros. Et ils sont arrivés, en fait, avec une idée. Avec une idée derrière, enfin une idée qui était super, un peu pas un, en gros, un script déjà écrit. Alors, enfin, pas du tout, parce qu'au final, il m'a posé des questions et c'est sorti complètement naturellement. J'avais aucune idée de ce qu'ils allaient me poser comme question le jour où on a fait l'interview. Okay. Mais du coup, c'est, en fait, c'est vraiment comme un film au cinéma, quoi. T'as un mec qui vient écrire un peu une trame de film et en fait, Max me connaissait de l'extérieur via les réseaux et m'avait suivi sur mes années sur le World Tour et tout ça. Et du coup, lui aussi avait une idée de quoi on pouvait parler.
Mmh,
et okay. Du coup, moi, c'était assez dur pour moi de dire ouais, je veux parler de ça, je veux qu'on mette ça en avant. Enfin, c'est dur à dire personnellement de dire ouais, moi, j'aimerais bien qu'on mette ça en avant dans ma vie. Donc, ça, j'ai pas fait du tout. Moi, je suis juste arrivée en leur disant bah voilà, j'aimerais bien faire un film avec vous, un film qui claque,
ouais.
Et en skiant des belles faces, machin. Le but aussi était que quand on ait le film devant les yeux, on voit qui est Juliette, mais aussi bien techniquement que personnellement, enfin, ou mentalement.
Bien sûr.
Et du coup, c'était vraiment ça l'idée de base. C'était que, en gros, moi, j'avais dit à Max, j'ai envie que, à travers ce projet, les gens, ils voient qui je suis. Mais moi, je parlais plus techniquement à la base, tu vois. J'avais vraiment plus envie que les gens, ils reconnaissent mon ski ou qui je suis sur les skis, tu vois. Et en fait, du coup, avec le fait que Jérôme ait écrit des questions et ils ont écrit un peu une trame, ou écrit un peu une direction de film, ça a pris le côté un peu intimiste. Et du coup, dans le film, tu vois, oui, le technique, mais tu vois aussi beaucoup d'intime et beaucoup ce qui se passe dans mon cerveau.
Ouais.
Donc, c'est assez cool.
C'est un parti pris qui est original, hein, quand même, pour, tu vois, être allé pas mal de fois à Montagne en Seine et pour avoir vu quand même pas mal de films. Il y en a quand même beaucoup qui se livrent peu, tu vois. Alors, j'ai toujours pas vu le film, je le vois demain soir. Donc, tu m'excuses. Là, en plus, je suis hyper impatient. Mais c'est assez novateur, finalement, tu vois, de s'ouvrir aussi un petit peu de ce qui est un peu dans le cœur. J'avais vu le film de Colin l'année dernière. Et c'est plus de l'engagement sociétal, tu vois, un expliquer les questions, un mouvement, mais on. Mais ça rentre pas dans la sphère de l'intime et de l'émotionnel, tu vois. Donc c'est encore un parti pris qui est différent. Toi, pourquoi t'as voulu aller sur ce chemin-là? Tu leur as fait confiance ou
Je leur ai fait confiance vraiment les yeux fermés, en fait. En gros, ils m'ont dit, ouais, on vient jeudi prochain chez toi, toute l'après-midi, on fait l'interview. Moi, je dis, ok, cool. Mais genre, j'avais aucune idée de ce qu'ils allaient me poser comme question, quoi.
Ok.
Et en fait, cet hiver, il a pas été facile parce que. J'avais perdu des copains, j'ai perdu des copines l'été dernier. Et du coup, je suis vraiment passée par des hauts bas tout l'hiver, machin. Et en fait, au moment où ils m'ont posé la question, j'étais assez bien dans mes baskets. Enfin, ça commençait à aller mieux et j'avais passé un bon début d'hiver. Le fait de faire du ski, ça m'a remis bien. Du coup, j'étais vraiment peinard. Et en fait, ils m'ont posé des questions intimes, plutôt assez intense en termes de psychologie, je pense, parce que il me posait des questions sur tu vas découvrir mais la peur, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, pourquoi je veux faire ça, pourquoi je veux faire des films, pourquoi machin. Et du coup, en fait, j'ai répondu vraiment mais nature peinture, j'étais posée sur mon canapé à la maison et du coup mais même eux, ils savaient pas en soi ce qu'ils allaient en utiliser de l'interview, parce que c'était on a besoin de faire une interview, on était censé en faire une deuxième en fin d'hiver ou au printemps. Et en fait, les questions qu'il m'a posées ont fait ressortir plein de trucs que je pense même à moi, je m'étais jamais dit. Je m'étais jamais dit, peut-être verbalement, peut-être que c'est certain que je le pensais parce que sinon j'aurais jamais dit. Mais, et du coup, on est parti très très loin, en fait, dans cette discussion. Et donc, cette interview, c'est ça qui, tu vas découvrir, c'est l'interview qui fait le film, en fait. Tout le long du film, t'as l'interview qui est un peu cadencée et qui, du coup, alimente le film et qui explique par quoi je suis passée, par quoi je passe dans ma tête en tant que skieuse, en fait.
Ok.
Et voilà pourquoi je fais des films, pourquoi je décide de faire ça.
Ok. Mais c'est... Merci déjà parce que ça me rassure, parce que je me dis... eux ils sont partis un peu, tu vois, de cette interview et puis ils ont écrit un peu après, tu vois, ce qui s'est passé et puis vous avez construit ensemble le projet. J'imagine qu'effectivement si c'était plus dur de faire des belles images, ça, il y avait la contrainte, mais ça me rassure dans le sens où moi quand je me lance dans un projet, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai du mal à visualiser tant que j'ai pas la matière, tu vois. Et tant qu'on n'a pas commencé, tu vois. Et je vais pas me dire tiens, là je vais faire une interview hyper émotionnelle avec Juliette, tu vois, alors que je sais pas si t'es dans un mood d'émotion, tu vois.
Oui.
Et du coup là c'est rassurant de voir que il y a Les choses s'improvisent aussi et viennent telles qu'elles sont.
Okay. C'est marrant d'en parler avec eux parce que, enfin, là, sur les premières projections, il y avait souvent Fred avec moi. Et Fred, la question qu'on lui pose en général, c'est et du coup, toi, en tant que producteur, comment t'as vécu ton hiver et le projet? Est-ce que vous aviez prévu est-ce que c'est la version finale? Est-ce que ce sont les mêmes, quoi? Et Fred, il raconte. Ouais, non, pas du tout. Alors, on est parti complètement sur autre chose et en fait, on a fini sur ça. Et en vrai, c'était génial. Enfin,
okay. Ouais.
Moi, j'ai passé un hiver pas facile parce que du coup, tout ce que j'avais prévu, ça faisait pas. Les faces que je voulais skier, elles faisaient pas. Il y avait pas de neige, il y avait pas assez de neige. Du coup, on s'est retrouvé à faire des trucs que je pensais pas faire tout de suite, mais du coup on les a fait parce que les conditions étaient bonnes en haute montagne et du coup on s'est mis à faire de la haute montagne. Au final on a fait du freeride mais en fin de saison parce qu'il a reneigé. Du coup, enfin genre tout s'est un peu démantelé et du coup c'était un peu au jour le jour quoi. Je disais au gars ouais vous êtes dispo après-demain pour aller filmer? Ouais ok bon bah on y va. Oh, vous êtes oh, merde je suis un peu coupée, il y a personne qui est dispo. Bon bah je vais contacter un autre caméraman. On a fait bosser d'autres caméramans sur d'autres journées. Enfin et en fait on a fait tout l'hiver un peu comme ça.
Ok.
Quand on prévoyait un truc, en général, ça marchait pas. Et du coup, on faisait un peu du tac au tac et c'était trop bien. Enfin, c'était trop bien. C'est cool. C'est bien après, hein, parce que sur le moment, c'est un peu stressant
ouais,
quand même.
Comment tu le vis, toi?
Ouais, c'était un peu stressant parce qu'au final, tu mets
de
nez.
Moi, j'endors pas, moi.
Et ouais, non, ça va. En vrai, le milieu du ski aussi, c'est ça, c'est que tu vis avec les conditions. Donc, on fait un sport qui dépend des conditions. Du coup, tu sais t'adapter. Et là, bah là, j'avais pas le choix. Donc, oui, c'est sûr, c'est un peu stressant parce que bah t'as mis de l'énergie depuis début d'automne. Tout l'automne, t'as travaillé sur ce projet. Là, c'est bon, c'est le start, c'est dans les starting blocks et t'es un peu en mode bon, bah y a un mec qui te tire avec une corde par derrière, quoi.
Ouais.
Et des fois, ça part, hop, tu reviens en arrière et ça part et tu reviens en arrière. Et du coup, des fois, j'avais l'impression qu'on faisait des journées. Je me disais, waouh. Ou des fois, je faisais des journées pour moi sans qu'on filme parce qu'on ne s'était pas organisé. Et en fait, la journée était trop bien. Je me disais, mais là, on aurait trop dû filmer. Et ouais. Bon, je disais, bon, ok, c'est pas grave. Et au final, à la fin, le rendu est cool. Donc,
ok. Ouais.
Donc, c'est top.
Bah, écoute, c'est marrant que tu parles de ça parce que bon, là, je te fais un petit feedback personnel. Mais moi, dans mon ancienne carrière, tu vois, j'avais une vie de bureau, start-up, développement de logiciels et de sites internet. Et tu vois, dans ce monde-là, tout est minuté, tout est carré, tout est prévu. En fait, tu vois, t'as 5 minutes de retard sur un appel visio, c'est mal vu. Enfin, c'est clairement, t'es genre, les gens te font dire, tu m'as fait perdre 5 minutes là. Et du coup, quand je suis arrivé moi dans le monde du sport et encore plus dans le monde des tournages, dans le monde des interviews et tout, le temps, la gestion du temps, elle est pas du tout pareille. Et ça m'a demandé un vrai, effort sur moi-même de
un relâchement.
Ouais, un relâchement de dire OK, il y a plein de paramètres, c'est OK et au début ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait vraiment bizarre de me confronter à des gens qui avaient pas du tout la même vision du temps que moi.
Yeah,
et j'avais je suis venu un peu avec ce syndrome là de genre ouais, faut que ça soit carré, faut que ça soit prévu, tel jour on tourne, on arrive à telle heure, on repart à telle heure, de telle heure à telle heure on tourne tel plan, une heure après on fait l'interview audio, enfin tu vois, on essayait de rendre le truc carré, mais en fait dans la réalité des faits c'est impossible de faire comme ça. Moi, ça m'a beaucoup appris, quoi. Je suis toujours en train d'apprendre. Moi, je suis toujours un peu l'angoissé qui se détend, quoi. Tu vois. Mais du coup, j'imagine bien que c'est. Enfin, je comprends la complexité et l'agilité, la flexibilité psychologique qu'il faut pour faire ce genre de film.
Ouais. Mais en fait, ça me l'avait déjà fait. Moi, je faisais du ski alpin avant.
Ouais.
Et du coup, bah, ski alpin, c'est carré. Tout est carré. C'est de la Formule 1 presque. Enfin, pas de la Formule 1, mais nous, on appelle ça de la Formule 1 dans le milieu du ski, puisque c'est très carré. Tu t'entraînes, machin, t'as tes dates, t'as tes compètes, t'as tant de compètes par hiver. Basta, quoi. Enfin, tout est très carré. Ta prep physique, elle est carrée. Ta prep mentale, si t'en as, elle est carrée. Si t'es en cours à côté, bah, c'est carré. Enfin, faut que tout soit carré. Quand j'ai arrêté l'alpin et que je me suis mis au freeride, je suis là. Là, faut peut-être que je me relaxe un peu quand même. Et tu vois, et pourtant, j'ai fait des compètes directes, donc j'étais quand même direct dans un milieu un peu pas carré, mais c'était peut-être un peu rectangle, tu vois. C'était du coup, Je me suis un peu détendue. Et là, d'avoir arrêté les compètes, l'hiver dernier, je commençais un peu à stresser parce que j'avais l'impression que j'allais pas être assez efficace que ce que j'aurais aimé l'être parce que, du coup, t'as pas d'échéance. Enfin, t'as... Oui, là, j'avais une échéance qui était le film, certes, mais dans l'hiver, j'avais pas... L'hiver dernier, en plus, je suis restée à la maison, j'ai pas bougé. Enfin, j'ai pas bougé. J'ai rayonné en Europe, mais pas très loin. Et du coup, j'avais pas genre le 12 février, tu pars là, le 16 mars, tu pars là, tu vois. Et du coup, j'avais l'impression que mon temps, des fois, il y a des journées, il y a des semaines, 4-5 jours, on faisait pas de ski. J'étais là, non, mais c'est pas possible. Genre, je suis skieuse, je suis censée skier, qu'est-ce que je fais? Et en fait, à la fin de l'hiver, du coup, je pense qu'on s'est un peu tous relax aussi parce que, s'il y a pas les conditions, il y a pas les conditions. Enfin, à un moment donné, tu t'es pas obligé de te forcer à faire un truc qui va, au plus, tu vas pas prendre du plaisir, quoi.
Ouais.
Et ça va pas être efficace et tu vas pas devenir une star parce que t'as skié de la neige pourrie pendant tous les jours, pendant 5 jours, tu vois. Et du coup, je pense que l'hiver dernier, j'ai vraiment aussi appris à prendre les choses comme elles arrivaient, tu vois.
Ouais,
j'ai plus relax. Si on peut filmer, c'est cool. Dans tous les cas, on va y arriver, mais il faut pas que ce soit stressant, tu vois. Et au début de l'hiver, c'était vraiment compliqué parce que j'arrivais pas à me dire ça, tu vois. Et en fait, fin d'hiver, avec les gars sur la prod et tout, et au final, j'étais... mieux organisé parce que du coup j'étais plus relax, enfin, tout allait très bien.
Ouais.
Okay.
Ouais, parce que ça demande quand même aussi de l'anticipation, de savoir où est-ce que tu veux aller, d'organiser un petit peu tes tripes et tout quoi. Ok. Comment est-ce que t'as fait pour te détendre? Tu parles en angoissé là, ce serait quoi tes tips?
Comment j'ai fait pour me détendre de l'hiver? Je pense que j'ai vécu un peu au jour le jour. Tu sais, à me dire, c'est cool, ça c'est à faire. Enfin. Aujourd'hui, je fais rien, c'est pas grave. Demain, je ferai un autre truc. Ah, demain, j'ai fait un truc chambé, c'est trop bien. Je prends, tu vois. Et tu prends. Et tu prends. Et en fait, une journée de repos, au final, c'est pas du malheur, quoi. Enfin, au contraire. Après, dans le travail, c'est un peu différent parce que des fois, faut, enfin, toi, j'imagine, dans ta situation, c'est pas complètement pareil. Mais nous, vu qu'on vit dans un milieu de extérieur, enfin, c'est outdoor. On n'a pas un meeting tous les matins où s'il y a quelqu'un qui arrive en retard, c'est pas grave, tu vois. Du coup, ouais, je pense c'est vivre un peu au jour le jour, accepter que des fois ça se passe pas tout comme t'avais prévu et que c'est pas grave des fois si tu te mets des échecs et des fois t'auras des journées qui seront trop bien, des fois que ce soit au boulot ou au ski ou ça dans ta cuisine, peut-être que il y a des journées qui vont t'émerveiller et d'autres qui vont t'embêter.
Ouais.
Et je pense qu'il faut avancer comme ça, tu vois. Tout en gardant des objectifs dans la tête, parce que je pense que si t'as pas trop d'objectifs, quand t'as pas d'objectifs, c'est quand même difficile d'être bien dans son cerveau, tu vois, ou de but où aller, tu vois.
Ouais.
Enfin, moi, je sais que je marche comme ça, si je pourrais pas être dans ma vie de tous les jours et me dire, là, je me laisse aller, on verra bien ce qui arrive, tu vois. Certes, il y a des moments où on essaye de surfer la vague et voir comment elle arrive, mais quand tu gardes quand même toujours deux, trois trucs dans la mirette, quoi.
Ouais, ouais. Et je me rends compte, tu vois, à quel point c'est pas évident quand même de passer d'une vie d'athlète, tu vois, rythmée par les compètes, où grosso modo, alors je sais pas exactement pour toi, mais on va dire, ton année, elle est financée par des sponsors et tu vois à peu près que c'est carré. Enfin, financièrement, t'arrives à faire le plan, tu vois, comment il est fait, et puis et toute l'année, elle est rythmée par les entraînements et les compétitions. Donc t'as une espèce de sécurité où tu te poses pas trop de questions et tu suis le rythme qu'on t'a proposé et puis financièrement normalement ça suit avec où tu passes quasiment l'année suivante. Ok, c'est toi, tu fais partie d'une équipe de réal de film, donc t'engages ton temps, tu fais s'engager d'autres personnes aussi sur leur temps et du coup c'est de l'argent, enfin tout ça. Avec pas forcément, tu vois, des sponsors qui vont te répondre oui tout de suite. Alors moi j'imagine, tu vois, que avec ta notoriété c'est plus facile en tout cas de discuter, mais et tu vois, où tu pars de la feuille blanche et t'as rien du tout, tu vois, c'est le contraste entre l'année toute tracée et là, ok, non, c'est à moi de construire tout et je dois tout façonner. J'imagine que c'est pas la transition, elle doit être compliquée, quoi.
Enfin, ouais,
pas évident tout de
suite. C'est pas évident, ouais, exactement. Mais j'ai vraiment vécu un moment je vais pas dire pas évident, mais un moment un peu compliqué dans mon cerveau, la transition un peu été-automne dernier. C'est que, quand j'étais en train de réfléchir au projet, je me disais, enfin, je repensais aux hivers d'avant, c'était mon choix, hein, c'est mon choix d'avoir arrêté la compète en plus, donc c'était quand même bien réfléchi et je savais que j'avais autre chose, je pouvais faire autre chose à côté parce que j'ai des sponsors qui me suivent aussi et qui me permettent de vivre de ma passion et qui n'étaient pas demandants que de compète. Okay. Et ça, je le savais en avance. C'est aussi ça qui a fait que. Enfin, ça a un peu pesé dans la balance aussi. Ça n'a complètement pas fait que j'ai pris mon choix, hein, parce que c'était un choix vraiment réfléchi, que j'avais envie d'arrêter la compète. Mais j'avais cette chance d'avoir des sponsors qui me suivaient à côté. Et du coup, ces sponsors, pour qu'ils continuent à te suivre, il faut créer quelque chose.
Ouais.
Et en fait, j'ai vraiment aussi, je pense, compris l'année dernière que j'avais monté ma propre entreprise, quoi. Et en fait, en tant que skieur, on est une micro-entreprise qui gère son biz et qui t'organise et qui se donne des objectifs et qui a tant de budget. Moi, j'ai la chance d'avoir un manager, un agent avec qui je bosse depuis 6 ans. Donc, c'est lui qui m'aide beaucoup pour avancer. Et en fait, après, tu montes un projet, tu te donnes des objectifs, il faut que tu sois présent sur les réseaux sociaux, il faut que machin. Ça, c'est une facette du métier qui est hyper importante maintenant. Et il faut vraiment arriver à se donner des objectifs. Et je pense que c'est ça qui a été le plus dur l'année dernière. C'était arriver à me dire, la semaine prochaine, j'ai envie de faire ça, ou dans 2 jours, il y a des conditions là-bas, je vais faire ça. Tu vois. Et vraiment, pas juste le dire, genre le faire.
Ouais.
Et après, par contre, j'étais vraiment, contente et une satisfaction personnelle de ouf quand j'ai réussi à le faire. Quand j'ai organisé des journées de shooting et qu'on est monté skier des faces, machin, enfin tout était cadré, enfin tout était cadré, non, tout n'était pas cadré. On est parti en discussion avec les pisteurs, t'organises avec, pour la sécurité, c'était eux qui m'avaient bien briefé sur comment étaient les conditions. Après, t'as les cadreurs, enfin t'avais Fred en bas au drone. Il y avait Pierre qui était avec moi pour qu'on soit un binôme pour monter et qu'on soit question sécuritaire aussi. Et en plus, on a skié. Enfin, quand on est arrivé en haut, c'était juste incroyable. On a skié. Je suis arrivée en bas. J'ai eu de la satisfaction. Je l'avais jamais eu en compète. Genre, okay. ça m'a transcendé. J'étais là, mais c'est ouf. En fait, je suis trop contente d'avoir réussi cette journée. Parce que c'est un bon combat. C'est cool, quoi. Enfin, c'est vraiment bien. L'organisation de ces journées, elles sont vraiment cool.
Ouais. Est-ce que ça fait du bien aussi que ce soit plus des objectifs chiffrés? Alors, il y a forcément des objectifs chiffrés, tu vois. Forcément, en termes de nombre d'images, en termes de budget, en termes de followers et tout. Mais la compète, ça te met quand même dans un mood où tous les week-ends, t'es assimilé à un temps, t'es assimilé à une position. Et tu vois, se détacher un peu de ces chiffres-là, à quel point ça fait du bien, en fait? Tu penses que c'est un peu
lié à ça?
Je
pense pas que ça fasse du bien à tout le monde, déjà. Moi, ça m'a fait du bien parce que je pense que je suis pas une immense compétitrice dans l'âme, déjà, de base.
Pourquoi tu dis ça?
Parce que j'ai toujours fait de la compète, mais j'ai jamais été très. Tu sais, genre, j'ai jamais eu trop la hargne de gagner. Genre, en alpin, je me rappelle, j'avais des copines qui étaient avec moi, j'étais trop contente pour elles si elles étaient devant. Enfin, si elles avaient fait un bon résultat, tu vois. Si elles étaient sur le podium et que j'étais 10e, j'étais contente pour elles, quoi. Okay. Et en freeride, c'était pareil. Évidemment, j'étais ravie quand j'ai fait des podiums, mais j'étais aussi trop contente pour mes potes, mes potes filles et mes potes mecs, quand ils faisaient des résultats de ouf, quoi. Et du coup, j'ai jamais eu cette haine de pas avoir fait bien, ou des fois j'avais de la haine contre moi-même, tu sais, de me dire tu fais suer, quoi, genre tu mets tout en place pour faire ça, super, quoi. Mais ouais. C'était pas par rapport à ma place, tu vois, c'était plus par rapport à moi-même. Bref, et du coup l'année dernière, d'avoir plus de tout ça, plus de compètes, plus de personnes qui te jugent sur des compètes de freeride, plus de chrono, plus de je pense que ça m'a un peu libérée. Et en vrai, j'étais complètement épanouie l'hiver dernier, quoi. Et en fait, j'ai moins vécu de haut bas l'hiver dernier, on va dire, psychologiquement, que quand t'es en compète et que tu fais un podium et la compète d'après tu tombes, ou tu fais un podium et la compète d'après tu te fais mal, tu vois. Et du coup, c'est l'hiver dernier, c'était mes choix. Si ça marchait pas, ça marchait pas, mais j'avais pas de haine, quoi.
Ouais.
Et quand ça fonctionnait, c'était en général très très bien.
Ok. Ouais. C'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Et notamment, tu vois, je sais pas pour toi comment est-ce que tu vivais la compète, mais on a toujours tendance, tu vois, à dramatiser les échecs de compétition que tu as fait un week-end, et le podium que tu vas faire le week-end d'après, il va pas du tout rattraper, il balaye, mais en termes d'intensité, tu t'en veux toujours plus que tu n'es heureux, tu vois, hormis à certains moments, tu vois. Je trouve que c'est un truc assez dur dans le sport, quoi. En termes de dopamine et de plaisir, t'es toujours plus.
Ah
Tu
ouais, c'est vrai
souffres
que bah,
plus
les
que.
échecs, tu t'en rappelles alors que des fois. Enfin, ça dépend des réussites aussi, mais tu te rappelles souvent des échecs alors que les réussites, tu te dis, oh, c'était cool, enfin, podium, mais après, tu te dis, oh, ouais, bah, cette compète, je me suis pété, je suis partie en barquette. Ça, tu t'en rappelles.
Ah, mais moi je le vois avec tu vois les retours, bon là c'est autre chose, les retours réseaux sociaux et médias et tout. On reçoit des centaines de messages par semaine pour nous dire tiens, les interviews elles étaient trop bien, merci d'avoir invité un tel, c'est trop cool et tout. Et le petit message de la personne qui a écouté un épisode, qui nous connaît même pas, et qui va nous dire je suis désolé, mais à la minute 15, vous avez bégayé, et puis vous avez fait une remarque, c'était beaucoup trop long. La prochaine fois, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper ce passage? Mais moi, je le prends mais
Ouais,
mille
tu le prends
fois plus
super mal.
dur et super mal. Alors que c'est quelqu'un qui, tu vois, qui te connaît à peine
Faut vraiment arriver à aussi à se mettre des œillères dans nos milieux. Je pense que toi, c'est pareil en tant que. Enfin, en tant que. Comment tu te présentes d'ailleurs? Journaliste, présentateur, podcast? Comment tu te présentes?
Bah, il y a deux façons de voir. Il y a qu'est-ce que les gens voient. Et effectivement, les gens vont voir un animateur d'une émission d'interview inspirante dans le monde du sport avec des athlètes. Et après, il y a 90. Donc ça, c'est 10% réellement de ce que je fais. Et après, il y a 90%, c'est monter une boîte, tu vois. Donc c'est plutôt être entrepreneur et
Voilà.
tu vois, recruter des gens, faire du commercial, organiser les interviews, gérer les petits pépins, tu vois.
Donc en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment arriver, ou en tant que sportif, ou en tant que personne dans la vie de tous les jours, je pense qu'il faut vraiment arriver à mettre des œillères sur certains trucs, en garder les côtés où ça peut être. Enfin, moi aussi, j'ai eu des remarques hein, dans ma vie, mais pourquoi t'arrêtes la compète, machin, c'est une erreur. Ou à une époque, non, mais si tu fais ça, t'y arriveras jamais. Si c'est pas constructif, faut que ça passe à, faut que ça rentre par une oreille et que ça ressorte, quoi. Ou que tu le vois et que tu l'effaces de tes yeux. Mais toutes les conversations ou tous les messages que tu reçois ou tous les gens qui peuvent te dire quelque chose, mais si c'est pas constructif, faut que tu te mettes faut mettre des œillères et avancer parce que forcément, on plaît pas à tout le monde. On peut pas être aimé par le monde entier, c'est pas possible.
Ah, c'est clair, c'est clair. Mais tu vois, là, j'ai fait un truc, c'est ma coach business, d'ailleurs, Sandrine, je t'embrasse, si t'écoutes cette interview, elle m'a filé un super tips. C'est que du coup, j'ai fait un album photo sur mon téléphone où tous les moments que je kiffe dans l'année, tu vois, il y a quasiment toutes mes interviews, ou peut-être, tu vois, des vacances, ou un tournage qui s'est trop bien passé. Tous les moments que je kiffe, je les mets dans cet album. Et j'ai tout imprimé et je l'ai mis dans un cadre photo géant chez moi, tu vois. Et l'idée, c'est, tu vois, c'est toujours se rappeler des énormes kiffs. Et je pense que c'est des énormes kiffs. Si il y a 2 ans, on me les avait montrés, j'y aurais même pas cru, tu vois. Je me serais dit, mais. J'aurais pas pensé à avoir, je sais pas, un studio, avoir une équipe, aller faire des tournages sur des bateaux, tu vois, et pour jamais les oublier, en fait, parce que, tu sais, une fois que t'as fait une réussite, t'as fait ta médaille d'or, ou t'as fait, tiens, cette super pente, bête de journée de tournage, bah, en fait, tu sais, elle est dans un coin de ta mémoire, et puis le lendemain, tu te prends une grosse baffe, et c'est la baffe qui
Et tu te dis,
te.
oh non, je suis trop nulle, je vais pas y arriver dans ma vie.
Ouais, tu
Ouais, je vois bien
vois.
ce que tu veux dire.
Pourquoi t'as arrêté, la compétition, toi?
Alors, ma dernière année de compétition, c'était en 2022. J'étais plus trop dedans. C'est-à-dire que, en fait, début d'hiver, en gros, on a eu des compètes, il n'y avait pas des conditions très bien. Et j'arrivais pas à me mettre dedans. J'arrivais pas à retrouver un peu l'envie et l'excitation que j'avais eue les dernières années pour partir en compète, pour regarder des faces et me dire ouais, je vais faire ça, ou avoir envie de faire un podium aussi. C'était un peu lisse, tu vois, un peu platonique. Il y avait pas grand-chose qui bougeait quoi dans ma tête. Et donc du coup, j'ai fait les premières compètes, j'ai pas fait des super résultats. Je suis tombée à une des compètes aussi, je crois. J'ai effacé. Ouais, je suis tombée et en fait, milieu d'hiver, en gros, je suis partie faire la dernière compète. Et c'était assez clair dans ma tête, en fait. J'étais hors. En gros, ils appelaient ça un cut. Donc, chaque année, tu as un cut qui te permet de te requalifier pour l'année prochaine. Et si t'es pas dans le cut, tu retournes sur les compètes européennes dans le même hiver. Et tu peux potentiellement, si tu gagnes, enfin si tu fais dans les 2 premières femmes, tu peux te requalifier, tu vois. Mais c'était assez clair dans ma tête que que en fait cette compète au Canada qui allait se passer, j'avais pas envie d'y aller. J'y étais et que quoi qu'il se passait, j'allais arrêter quoi. En fait, ouais, quand j'ai senti que j'avais plus la passion de la compète, pas la passion du ski, hein, plus la passion de la compète, je pense que ça a éteint la flamme directe. Genre, il n'y a pas eu. Elle a pas continué à brûler longtemps, quoi.
Ouais.
Et du coup, ça a été assez radical hein, comme décision. Je sais pas. Enfin, pas radical, réfléchi, mais radical. Et voilà. En fait, j'ai toujours. Enfin, j'aime bien dire cette explication pourquoi j'ai arrêté la compète. Dans Free Ride, il y a Free. Et j'avais l'impression que j'étais plus free, que j'étais plus libre. Et du coup, au début du freeride, donc il y a 8 ans quand j'ai attaqué, je pense que le côté free, il était méga important pour moi. Et j'avais l'impression, je venais du ski alpin, donc tu bascules dans un milieu où tout est un peu, c'est un peu la liberté quoi. Tu choisis ta ligne, machin. Et j'aimais bien le côté compète parce que ça me cadrait, ça me donnait des objectifs et ça fonctionnait. Je faisais des bons résultats. J'ai trop kiffé cette vie qu'on a. Donc, je me suis complètement mis à 100% dans ma vie. Et au moment où je pense que j'ai plus ce côté free, tu vois, le fait d'aller sur des compètes, on t'impose des faces. Enfin, c'est normal, on fait des compétitions. Donc, les organisateurs, ils t'imposent une face. T'es jugé. En fait, tu t'imposes à toi-même donc de faire des compètes. Et du coup, je me retrouvais à des endroits... Genre, bah, typiquement, la dernière année, on était au Canada. Il n'y avait pas de neige. Et je disais, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, genre, certes, j'ai une compète, tu vois, mais en fait, je pourrais être à la maison, il y a de la neige. Donc, et tu vois, la balance, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, en fait, je pense que je suis en train de perdre la flamme de la compète et j'ai envie d'être libre de nouveau. Et du coup, ben, en arrêtant, je me suis dit, vas-y, je vais recréer cette liberté et recréer mes choix et mes envies. Et du coup, dans le film, d'ailleurs, c'est quand même beaucoup ça qui ressort, c'est que l'hiver dernier, bah, voilà, ça a été une redécouverte de la liberté quoi.
Ok.
Mais personnel hein, c'est vraiment pas, enfin j'ai vraiment pas, je veux vraiment pas dénigrer le Freeride World Tour, au contraire, enfin genre sans eux j'en serais pas du tout là, tu vois. Oui. Mes années sur les compètes, elles m'ont fait grandir techniquement, mentalement, humainement. Grâce à eux j'ai rencontré des gens incroyables, enfin qui sont devenus des potes, mais c'est ma famille, enfin j'ai voyagé aux quatre coins du monde grâce au Freeride World Tour, enfin j'ai vraiment aimé et vécu mon expérience à 100%.
Ouais.
Et je suis contente d'ailleurs d'avoir arrêté à ce moment-là pour pas avoir eu de dégoût par la suite, mais parce que ma tête était plus à fond dedans, quoi.
Ouais, ok.
Et je respecte énormément tout ce qu'ils ont fait pour nous et la façon dont c'était organisé. Et ce que j'ai vécu, c'était juste incroyable.
Ouais. Donc, c'était trop... Il y a l'air d'avoir quand même une bonne ambiance.
C'est incroyable, ouais. Ouais. L'ambiance est folle. En fait, franchement, bon, en plus, on était beaucoup de potes qu'on se connaissait, tu vois. Donc, au fur et à mesure des années, tu connais quand même beaucoup de monde. Et du coup, t'avais vraiment l'impression que tu partais en colonie de vacances.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avec tes potes faire des compètes quoi. C'est vraiment génial. Mais
il y a combien de Françaises et de Français sur le...
Maintenant il n'y en a plus beaucoup, mais nous à une période on était 10 quand même sur 50 riders, ça fait quand même beaucoup quoi, enfin
ouais. Et puis après tu te fais vite des potes
et après on avait après
puis tes entraîneurs,
on n'a pas fait que les bons Français à rester que entre nous, tu vois, on s'est quand même un peu aussi étendu rencontrer d'autres personnes que des Français.
Pourtant on n'a pas toujours très bonne réputation,
mais c'est pour ça que je dis ça.
On a souvent tendance à nous reprocher de rester un peu trop entre nous et...
Non, nous on est ouverts. Super ouverts.
Ok. Ouais, donc ça fait... Bon, j'imagine ça te fait quand même un peu... la fille qui quitte un peu la famille, mais en même temps, c'est le parcours un peu classique pour tous, tu vois, ceux et celles que j'ai pu rencontrer... C'est normal à un moment donné d'arrêter la compétition, de commencer à faire des projets un peu solo, plus tu vois, ce que je vais dire plutôt côté artistique. La voile est un peu tracée. Et d'ailleurs, je me demande, tiens, tu peux peut-être me dire, mais est-ce qu'il y a des exemples de femmes ou d'hommes en snow ou en ski qui ont réussi à faire des films à succès sans être passés par la compétition avant? Parce que toi, tu disais, ouais, ça m'a énormément apporté. Tu vois, ça t'a cadré, ça t'a, j'imagine, énormément appris à skier, ça te fait une notoriété, ça te fait un réseau aussi. Il y en a qui ont réussi à faire 100. Je pense pas. Hein. Petite réflexion comme ça.
Ouais, cette... petite réflexion.
Mais déjà, si on
dans
cherche, c'est que c'est pas évident.
Freeride en femme, je vois personne comme ça. En homme, il y a des gars hein, qui sont. Mais ils ont fait du freestyle. Non, mais.
Ouais.
Quasi tout le monde qui a fait de la compète. Hein. Ouais. En fait, le truc, c'est que c'est. Bon, à part si t'es une méga machine de guerre, je pense que c'est ultra dur de. Si t'es un humain normal qui n'a pas fait de compète, de te faire connaître assez vite et de devenir un athlète sponsorisé par une marque et qui gagne sa vie avec le ski ou le snowboard. En snow, il y a des petits jeunes à Cham en ce moment qui arrivent, qui n'ont pas fait trop de compète. Hein.
Ok.
Mais ils sont un peu plus jeunes que nous, ils ont une vingtaine d'années.
Ouais, c'est une nouvelle génération, 23, peut-être quoi. Réseaux sociaux.
Ouais.
Ou...
ouais, et puis ils sont super forts et du coup ils se sont fait repérer par des boîtes de prod, des marques.
Ouais.
Mais oui, là, mais parce que les réseaux sociaux sont là. Enfin, ouais. Sans les réseaux sociaux, à part si t'es tous les jours sur les pentes, tu les vois pas ces gens-là.
Ouais.
Si t'es pas sur Instagram, Facebook et TikTok et Snapchat, ils ont tous dit, je crois.
On vexe personne. Mais c'est marrant parce que tu vois, c'était un peu le conseil qu'avait donné Victor. Je lui avais dit, ouais, comment faire si tu veux devenir, commencer à faire des films? Il me dit, ouais, entoure-toi parce que si tu commences à faire avec des potes, avec des gens que tu connais, c'est plus facile. Et c'est vrai que maintenant, pour les jeunes qui ont 18 ans, qui habitent en station, maintenant avec les super téléphones que t'as, tu vois, si tu t'es un peu débrouillard, t'aimes un peu faire du montage et tout, maintenant avec la qualité de matos que t'as, avec la qualité des tutoriels que t'as sur YouTube et tout, tu peux presque... Enfin, je suis pas étonné que des jeunes, tu vois, commencent à produire des choses par eux-mêmes, quoi.
Et, ouais, clairement.
Et sans avoir besoin aussi de très gros moyens.
Non,
après, t'es limité à un moment donné. Si
et comme
des
dans
drones,
tous les sports. Regarde, avant, en fait... Si t'étais pas un compétiteur ou un athlète qui a fait de la compétition, tu pouvais pas être connu, tu vois. Enfin,
ouais.
Si t'avais pas fait de compète avant les réseaux sociaux, tu vois.
Ouais.
Tu passais jamais au journal parce que t'avais fait un backflip au bord de la piste, tu vois. Alors que le mec qui avait fait un backflip en compète, bah, il pouvait passer sur le JT
ouais.
ou sur les journaux. C'était possible grâce à la compète, quoi.
Ouais.
Mais du coup, oui, on vit dans une nouvelle ère. Et je pense que ça va aussi faire découvrir des nouveaux champions, tu vois, qui peut-être n'ont pas du tout envie de faire de la compète et qui n'en feront jamais, mais qui sont des surhommes ou des surfemmes,
ouais.
Et qui du coup méritent tout, qui méritent le feu des projecteurs, quoi.
Ouais.
Et c'est cool.
Bien sûr, bien sûr. Mais ce que tu dis, ça me fait penser, j'avais eu une conversation avec Kylian Bron, et lui, il m'avait dit que ça a été un énorme soulagement pour lui de quitter la compète et de développer sa fibre artistique, parce que il a... Ouais, lui, ce qui l'intéressait, c'était d'imaginer les films, de les penser, et d'apporter un peu cette espèce de compétence et cette appétence de gestion de projet, tu vois, dans ce qu'il faisait, et plutôt que dans les films, dans les compétitions, quoi. Et...
Bah, en vrai, tu vois, Kylian, enfin, je le connais un peu, et ça a été un peu aussi c'est ce genre de personne sur qui j'ai un peu regardé. Je me suis dit, bah, c'est un peu des inspirations, tu vois.
Ouais.
Parce qu'en arrêtant la compète, bon, il y en a des gens qui font des films de ski, il y a quand même pas beaucoup de nanas qui font des films de ski en arrêtant la compète de freeride, tu vois. Et du coup, j'étais là... Pour aussi un peu te rassurer dans ton choix, tu sais, de dire, pas te rassurer, mais t'aider à voir dans quelle direction il faut que t'ailles. Genre, Kylian, ça a été clairement un mec que j'admire depuis des années, et ce qu'il fait, c'est trop ouf. Et du coup, de voir la réussite qu'il a réussi à. Enfin, qu'il a aujourd'hui, c'est trop cool. Et c'est hyper inspirant comme histoire.
Ouais, clairement.
Et c'est trop cool aussi qu'il ait retrouvé cette liberté suite à son arrêt de compète. Et enfin, moi, je suis trop ravie de l'avoir trouvé aussi. Hein.
Ouais.
C'est pas un soulagement, parce que je vais pas dire non plus j'ai vécu avec un poids sur la tête pendant 8 ans. C'est pas du tout le cas, tu vois. Mais je pense que j'ai pris la décision au bon moment pour que ça ait été cool. Je l'ai pas trop subi ma dernière année. Et au bon moment, j'ai fait switch on-off. Et j'ai réécrit. Enfin, je suis en train d'écrire une nouvelle page. C'est que le début. je suis encore un bébé dans ce milieu du ski de montagne et de, ouais. du film et de tout ça. Et je suis trop contente d'écrire une nouvelle page en étant bien, quoi.
Ok. Ça tombe bien que tu parles de ça, parce que tu vois, j'avais noté dans mes notes un peu la question des rôles modèles, tu vois, et aussi, alors, c'est ma perception, peut-être que j'ai un peu déformé, mais de Parisien dans sa tour, je me dis, ouais, les projets de films, ça vient en post-carrière, tu vois. J'ai un peu, peut-être que c'est un peu le mythe, je sais pas, Kevin Rolland ou justement les frères de Leroux, tu vois,
Je pense que c'est parce que c'était le cas, en fait.
Pierre Voltier, ouais, tu sais, qui font de la compète, et puis après, ils se mettent à faire des films. Toi, ce que je trouve hyper admirable, j'ai de l'admiration pour toi, parce que déjà, t'es beaucoup plus jeune que, je pense, au moment où ils ont commencé à faire des films. T'es une femme. Et du coup, je me posais la question de... Est-ce qu'il y a des rôles modèles, tu vois, je me rends pas compte, peut-être aux States, tu vois, ou tu disais qu'il y a des moments de doute, mais moi je me suis dit, ouais, en préparant l'interview, je me suis dit, ouais, elle est quand même culottée, et en même temps, tu vois, je trouve ça
ouais,
trop
ouais, cool.
audacieux. Non, mais je me dis, en fait, c'est trop cool que tu vois, que tu te sois pas mis de barrière mentale.
Ouais.
Parce que il y en a encore dans le sport, j'en vois beaucoup, tu vois, au quotidien.
En fait, il y a eu un peu un truc. Il y a 2 ans, je suis partie, donc, mon hiver 2022, quand je faisais encore les compètes, j'ai passé 1 mois aux US au milieu.
Ouais.
Et en fait, j'étais entourée de gens qui vivaient du ski et qui faisaient partie boîte de prod, mais qui faisaient pas de compètes. Ou qui en avait fait avant, genre en freestyle, un peu en freeride, des qualifiers, enfin des trucs comme ça, mais qui faisait pas de compète et qui vivait du ski, tu vois. Mais parce que aux US, c'est beaucoup plus démocratisé, en fait. En Europe, t'en as, hein, des gens qui vivent du ski que grâce à la vidéo, mais c'est quand même beaucoup moins qu'aux US. Après, aux US, c'est les US et ça s'organise comme ça s'organise et ils ont des grosses boîtes de prod que nous on n'a pas en Europe, tu vois. Et en fait, en étant là-bas, je me suis dit, mais c'est possible, tu vois. Et c'était après ma dernière compète au Canada.
Ok.
Donc, j'avais décidé d'arrêter. Ça a complètement conforté ma décision de passer 1 mois avec des gens qui faisaient que ça. Et je me suis dit, mais trop bien. Sauf que moi, je savais très bien que je suis européenne, enfin, je suis française, que nous, on n'a pas des grosses boîtes de prod comme ça. Alors après, par exemple, Colleen Balibaz, cet hiver, elle a filmé avec une des grosses boîtes de prod américaines. Donc, c'est trop cool. Américaine ou canadienne. Je sais plus si je dis des bêtises. Donc, c'est trop cool. Alors, elle en a fait partie, mais on est quand même européens. Et nous, on a notre façon de faire aussi. Enfin, notre façon de voir la montagne, de ce qu'on veut faire. Et moi, je savais très bien que ça me correspondait plus de faire un projet à moi ou de faire partie de projets de potes en Europe que... de projets qui sont nés en Europe, que de faire partie d'une grosse boîte de prod comme ça. Et de toute façon, pour le moment, j'ai pas d'entrée dans ces boîtes de prod et je sais même pas si demain on me propose, je sais pas ce que je dirais, tu vois. Parce que c'est un autre milieu, enfin, c'est pas pareil, tu vois, c'est pas le même. Enfin, après, je sais pas, demain on me propose d'aller faire du ski au Canada, enfin, du ski en Alaska, je sais pas ce que je dirais. Je sais pas si je dirais oui ou non, tu vois. Parce que après il y a la question écologique aussi du truc, enfin genre je sais que mon cerveau il serait un peu en mode bah ce serait une chance de ouf d'aller faire ça, mais d'un côté si on pourrait faire ça, enfin bref, voilà.
Donc, petit conflit interne.
Ouais, petit conflit interne, je pense. Mais on n'en est pas du tout là parce que c'est la question se pose pas. Mais bref, et du coup, je pense que ça a été une aide dans ma décision. Donc c'est pas des rôles modèles, mais c'est des gens qui m'ont aussi un peu inspiré. Et en fait, en Europe, on en connaît plein, hein, des gens qui font des films. Et Jérémy Haynes, qui est suisse, qui a fait un film de ouf, La Liste, il y a quelques années. Bah, lui, il a fait de la compète. Lui, il a un profil alpin. Il a fait du freeride. Ça a fonctionné sur le Freeride World Tour. Il a décidé d'arrêter parce que je ne sais pas pour quelle raison. Et derrière, il a fait des films et ça a trop bien fonctionné. Donc clairement, un profil comme ça, ça a été... dans mon milieu, ça a été un rôle modèle grave. Après, c'est vrai que c'était un peu le doute sur... je suis une fille, il va falloir que j'ai les épaules carrées pour organiser tout ça, quoi. Et que ça marche, que ça fonctionne bien, qu'on parle à du monde. Enfin, on parle à du monde. Que mon film, ou mes films, mes futurs films, j'en sais rien, parle à un certain public. Faut avoir un peu les épaules carrées pour se dire, bon, faut que j'encaisse tout ça, et c'est à moi d'organiser tout ça.
Ouais.
Mais ça s'est réalisé parce que je suis hyper bien entourée. Je suis entourée d'un manager, je suis entourée de plein de potes, de gens qui sont là pour moi et qui m'aident dans mes choix de vie, tu vois, tous les jours, enfin, de vie et de décision, de tout ça. Et des boîtes de prod comme les gars avec qui j'ai bossé. Enfin, c'est, si ça se passe tout aussi bien, c'est parce qu'il y a un cercle autour de moi qui est hyper solide.
Ok, ouais. Ouais, qui favorise et qui est aussi catalyseur, tu vois, d'avoir plus de femmes dans le milieu du freeride et de films aussi, j'imagine.
Ouais, clairement, les gars, ben. Mais... les gars de la boîte de prod, ils étaient super, super chauds de faire un projet sur une femme. Donc, ça, c'est trop cool. J'étais trop contente.
Ok. Ouais. Il y a combien de femmes qui vivent en France aujourd'hui? Peut-être comme toi?
Je sais pas. Peut-être moins de 10, je pense, qui vivent du ski ou du snowboard. Je pense qu'on est moins de 10.
Ouais, c'est quand même exceptionnel.
Ouais, je sais pas si je dis un chiffre. Non, je pense, ouais, c'est ça. Après, ouais. Moi, je travaille à côté. Un petit peu.
Ça, tu fais quoi?
Je suis guide de vélo.
Ok. Ah bah oui, on faut qu'on parle de vélo. Et ça fait combien de temps que tu fais du vélo? Depuis toujours, j'imagine.
Depuis toujours.
Ta première compète?
En 2020.
Ok. Pourquoi?
Parce que mes potes, ils me tannaient. Pour que j'aille faire... En fait, je roule en enduro, donc ça se rapproche de la descente. Hein. Pour ceux qui connaissent, ils sauront ce que c'est de l'enduro. Depuis une dizaine d'années, enfin même plus quand j'ai attaqué quand j'avais 10 ans, mais vraiment beaucoup depuis 6-7 ans. Et donc, je roulais tout le temps avec ma bande de potes et je me faisais trop plaisir, on allait vite, machin, on progresse et tout. Et les gars, ils m'ont dit, essaye de faire des compètes, tu verras, je pense que ça va marcher. Et moi, je dis, ah bon, me saoulez pas avec les compètes. J'en fais déjà en ski, donc c'est cool. Et en fait, un jour, il y avait une compète, je sais même plus si c'était une compète dans la région Rhône-Alpes. Et j'y suis allée, j'ai gagné. Et du coup, j'ai fait, bon, c'est cool, en fait. Et voilà. Comment ça a fait que j'ai fait des compètes. Et en fait, derrière, j'ai trop kiffé aussi c'était le retour au chrono aussi, parce qu'en freeride, c'est des jugements. Et en fait, j'aimais pas mal les chronos, parce qu'au moins, je viens des chronos, je viens de l'alpin, donc c'était cool aussi d'y regoûter un peu. Et j'en ai fait quelques-unes, ça a bien fonctionné. Et puis en fait, après, j'ai passé mon diplôme de guide de vélo aussi.
Okay.
Donc il y a une année, j'ai fait un peu les deux en parallèle, mais du coup, en fait, je prends plus de plaisir à aller rouler pour moi et rouler avec des clients des fois que de rouler en compète.
Ok. Et c'est quoi être guide de vélo? C'est t'emmènes des gens et vous allez vous vadrouiller en montagne et tu choisis une piste et tu les accompagnes, tu les formes.
Ouais,
c'est quoi le profil? Est-ce que c'est le Parisien qui va à la montagne? Est-ce que c'est le gros passionné qui fait le tour du monde, qui a un énorme niveau et qui veut juste découvrir une trace, tu vois? Est-ce que c'est c'est quoi le profil type?
Ben, en fait, je suis monitrice guide, donc ça va aussi bien de l'enfant qui a jamais fait de vélo ou de l'adulte qui a jamais fait de vélo à un client expert qui veut juste quelqu'un qui lui montre les bonnes traces et où aller, quoi.
Okay.
Donc, on fait pas mal aussi de journées, genre, beaucoup en vélo électrique maintenant quand même, mais des journées découvertes, mais du coup, ça va pareil, ça va de tous les niveaux, quoi. Des fois, j'ai des familles entières, tu peux te retrouver avec les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, parce que le vélo électrique, ça lisse tout ça, donc c'est cool. Et aussi bien, tu vois, on fait des tours du Mont Blanc avec des clients, donc ça, c'est un peu plus extrême. Mais du coup, ça part sur 3-4 jours, on fait le tour du Mont Blanc, on part les chemins. En fait, c'est, voilà, j'accompagne ou j'apprends ou je... Enfin, j'apprends aux gens à faire du vélo.
Okay.
Après, tu les fais progresser techniquement. J'ai aussi bossé pendant une petite période, j'ai bossé au club des sports, au club de VTT. Donc, j'étais coach des jeunes.
Ok.
Donc là, tu coaches. Donc là, c'est techniquement, c'est de la progression, quoi.
Et ça te prend combien de temps par an? Combien de jours?
Pas beaucoup. Maintenant, je travaille plus beaucoup avec le ski. Ça, j'ai plus trop le temps. Je le prends plus trop non plus.
Ouais.
Mais pas, je sais pas, je serais même pas quantifié. Je fais pas non plus 15 000 journées, tu vois, mais l'été dernier, j'ai bossé, j'ai dû encadrer un mois et demi.
Ok. Mmh. Ouais. C'est bien, ça te fait une coupure.
Mmh. Mais j'en ai besoin, mais c'est cool. J'aime bien aussi avoir, je pense que le vélo fait que mon année, elle est trop cool, quoi. Genre, j'aime trop la fin de l'hiver, je suis trop excitée de reprendre le vélo. Et là, tu vois, cette période-là, en novembre, je suis trop excitée de reprendre le ski. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Et je pense que ça fait un bel équilibre dans ma vie. En fait, l'été du Covid, ou l'été d'avant même le Covid, j'ai fait beaucoup, beaucoup de vélo. Et jusqu'à l'été 2018 ou 2019, je sais plus, j'étais partie skier au Chili parce que j'aimais beaucoup partir l'été en ski. Et en fait, je le sentais un peu comme une obligation aussi de partir l'été en ski, sinon j'avais l'impression que j'allais pas être assez forte dans ma vie en ski. C'est un peu un truc dans mon cerveau de me dire si tu vas pas skier l'été, tu vas pas progresser, tu vas pas être assez forte, machin. Et en fait, l'été d'après, j'ai fait que rouler et je me suis dit, mais en fait, je suis trop bien dans ma tête en faisant que du vélo et d'avoir deux passions, en tout cas, moi, ça me correspond super bien. Et voilà. Allez, je suis pas 50-50, je suis quand même 60 ski, 40% vélo.
Ok. Et t'as remarqué qu'en coupant sur le ski, tu allais avoir un meilleur niveau quand tu reviens parce que t'as plus envie et t'es mieux et tu te sens mieux, quoi, dans tes baskets, quoi.
Un meilleur niveau, je sais pas, mais du moins une excitation qui est plus importante, ouais. Après, là, du coup, ça fait donc 3-4 ans que je suis pas partie l'été. Et là, cet été, ça m'a titillé un moment. Je me suis dit, j'aurais peut-être skié là, ça pourrait être cool. Mais en tout cas, ouais, je sais que si j'avais pas le vélo dans ma vie, ce serait pas aussi cool.
J'imagine. Et c'est pas ça trouble pas certains sponsors sur le message, ou ils sont au contraire contents?
Non, la plupart des sponsors en vrai sont contents qu'on ait une double casquette. Comme ça, en fait, on communique à l'année. On n'est pas qu'un athlète hiver.
Ouais.
Vu qu'on dépend des saisons. Bah, les skieurs, on est des athlètes hiver, quoi, enfin, ou des athlètes qui dépendent de la neige. Et du coup, c'est cool. Et moi, j'ai quelques sponsors qui sont été-hiver. Donc, c'est cool.
Donc,
je suis équipé en hiver et en été, donc c'est super.
Okay.
Et ça correspond super bien pour eux parce que, bah, du coup, t'es un athlète ski et un athlète vélo. Et du coup, enfin, pour eux, c'est hyper intéressant.
Ouais. Ok. Ouais, je vois le truc. Je m'étais noté une question, sur la peur. Parce que je me baladais sur ton compte Instagram et je voyais quelques shots, tu vois, où on te voit en haute de pente raide. Et je me disais, mais putain, mais moi, je pourrais pas faire ça. J'aurais trop peur. Et je sais pas pourquoi j'ai ressenti ça. Pourtant, j'ai rencontré plein de skieurs, de gens qui font des sports extrêmes. Et là, en le voyant, je me suis dit, waouh, je le voyais pas aussi dur et aussi... Forcément, quand tu le vois confortablement assis dans ton fauteuil face à un grand écran, ça a l'air moins dur. Et là, je sais pas, ça me semblait hyper dur. Et je sais pas, là, la question que j'avais, que je m'étais notée, c'est quoi ta relation à la peur?
Quelle est ma relation avec la peur? Je pense que... j'aime bien avoir peur, déjà. Faut que je l'admette, dans une certaine mesure. On a une phrase en montagne qui dit que si t'as plus peur, c'est pas bon, tu vois. Enfin, là, je sais plus exactement la phrase, mais c'est tant qu'il y a de la peur, c'est que ça va. Et si c'est le jour où t'as plus peur, ben c'est un peu la mort, quoi. Et du coup, j'aime bien avoir peur, tu vois.
Okay.
C'est pas on dirait un peu une tarée quand je dis ça, En ski, on a souvent peur quand même. Enfin, tu vois, même en départ de compète, à l'époque, j'avais peur. C'est du stress, mais c'est plus que du stress, c'est de la peur parce que, ben, du coup, tu sais ce que tu fais, c'est engagé, que t'as pas le droit à la chute, que il faut pas qu'il y ait une avalanche qui parte, tout ça. Mais du coup, quand en général, t'as fait les choses bien et que t'es au bon endroit au bon moment, si t'as cette peur et que t'arrives à la gérer, ben, c'est cette peur-là qui te fait avancer, tu vois. Après, ça arrive d'avoir la peur qui te coupe les jambes. Et où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Genre, je veux pas du tout être là. Et du coup, c'est toujours un peu un management, je pense, entre il faut que j'ai la bonne peur et pas la mauvaise peur. Comme t'as le bon stress et t'as le mauvais stress. T'as le stress qui te fait devenir un warrior et t'as le stress qui t'écrase, quoi. Et du coup, la peur, c'est un peu la même. Et j'admets complètement avoir peur, tu vois. En montagne, c'est dans le film, on en parle beaucoup, mais j'admets et je suis complètement OK avec le fait d'avoir peur, tu vois. Sur le moment, des fois, tu viens de te poser la question, tu te dis, mais attends, genre là, j'ai vraiment beaucoup peur quand même. Mais en fait, quand tu rentres chez toi le soir, tu te dis, bah, en fait, c'était trop ouf, c'était trop bien, tu vois. Et bon, c'est un peu une drogue, hein, c'est de l'adrénaline. Hein. C'est que la peur ça t'apporte de l'adrénaline et on est accro, je pense, les skieurs à l'adrénaline complet, quoi.
Ok.
Enfin, les sportifs, je pense.
Et tu sais, c'est quoi la différence? Enfin, comment tu fais ce switch entre cette peur paralysante et cette peur excitante?
Dans le film, il y a un super exemple.
Vas-y.
On est en haut d'une montagne et on arrive en haut de la montagne et il y a une arête. Et en fait, l'arête, elle est super fine. Elle fait, elle doit faire 15-20 cm de large. Du coup, on ne peut pas marcher dessus parce que tu as 1000 mètres à droite et tu as 1000 mètres à gauche. Du coup, on est obligé de traverser. Donc, on traverse en crabe, en fait. Donc, avec les mains sur l'arête, les piolets et tout ça, et on traverse en crabe. Et en fait, là, j'ai eu peur et c'est de la peur qui m'a coupé les jambes parce que je n'ai pas de marge en alpinisme. J'étais avec Pierre, qui est guide. Lui, il gérait bien. Enfin, il était en gestion de moi sur la montée. Il m'apprend, tu vois. Cet hiver, c'était l'apprentissage. Donc, on est arrivé en cette montagne. C'était lui qui me leadait. C'était lui le leader de la journée, quoi. Et en fait, je me suis aperçue, genre, là, j'ai zéro marge, quoi. Là, c'est extrême, mais total pour moi, quoi. J'étais pas bien, tu vois. Ça me coupait les jambes. Je me suis même dit à un moment, mais c'est mort, on va jamais aller au sommet. On était 100 mètres sous le sommet. Je me suis dit, on va jamais arriver en haut. Et donc, ça, c'est la peur qui était un peu saillante, tu vois, qui m'a un peu coupé les jambes. Et une peur, par exemple, juste après, genre une heure après, on a attaqué à skier. On arrive sur l'arête et il me dit, pars devant si tu veux. Et je dis oui. Et là, j'ai pas bougé. Genre, impossible de bouger, tu vois. Mais j'avais peur parce que du coup, j'étais en mode, oula, mais qu'est-ce que je fais? Genre, c'était super raide et tout. Donc, il repasse devant, il fait son premier virage. Et là, j'ai eu peur au moment où j'ai lancé mon premier virage. Mais en fait, j'ai de la marge en ski. Et du coup, cette peur-là, elle m'a permis de descendre, tu vois, d'avancer. Et j'avais pas besoin que Pierre me tire comme il a fait à la montée, tu vois.
Ouais.
Et donc, j'ai vraiment ressenti cette peur cet hiver. Je pense que dans ta vie, quand t'as de la marge de technicité, c'est comme, j'en sais rien, si t'es mathématicien et qu'on te pose une énigme, enfin, qu'on te pose un calcul, genre, mais t'en as fait 50 000 fois dans ta vie, des comme ça. Premier coup où tu le vois, tu dis, ouais, c'est super dur, mais en fait, tu sais faire. Ou alors que si on te pose un truc qui a jamais été fait et que c'est une énigme impossible à résoudre, là, tu vas avoir peur. Parce que t'auras jamais fait un truc comme ça. Et du coup, pour moi, en ski, c'est, on va dire, quand j'ai les skis au pied, ça va. C'est de la peur gérable. Enfin, c'est du stress que j'arrive à gérer. Pour le moment, en alpinisme ou en escalade ou dans des milieux où je suis un peu plus novice, j'ai du mal à gérer ce stress.
Ok.
Cette peur.
Ok. C'est un hyper bon exemple que j'ai eu là dans un bouquin qui explique en fait la peur comme si tu imaginais en fait une cible de tir à l'arc. Et donc tout au milieu, t'as ta zone de confort. C'est Juliette dans son canapé. Le deuxième cercle, juste autour, c'est ta zone d'apprentissage, tu vois. C'est les trucs que t'apprends, qui sont des nouveautés pour toi. Et le troisième cercle, c'est ta zone de peur, en fait. Et le quatrième cercle, c'est ta zone de génie, tu vois. Et la théorie, elle explique, en fait, que si tu veux passer, du coup, de ta zone de confort, enfin, si tu veux arriver dans ta zone de génie, t'es obligé de traverser ta zone de peur. Et qu'il faut voir la zone d'apprentissage un peu comme un tremplin, tu vois. Et plus le tremplin, il est élevé, plus tu peux avoir une zone de peur qui est facile à transpercer, quoi. Et là, dans ce que tu dis, c'est exactement ça, en fait. Tu vois, t'es dans l'inconnu total, donc t'apprenais, je pense, à 1000 km/h, mais du coup, la distance à parcourir, elle était impressionnante, en fait, pour arriver dans ta zone de génie. Alors que dans le ski,
elle est plus facile. Le tremplin est plus gros, quoi.
Ouais.
Ouais.
C'est ouf, c'est une belle métaphore. J'ai envie d'être dehors, de regarder le film.
Tu verras. On se mettra le stress.
Mais je regarderai, je me souviendrai de ce moment. Est-ce que... Tiens, je t'avais dit que je voulais parler un petit peu de développement personnel là pour terminer l'interview. Et on m'a donné une idée de question récemment là. Qu'est-ce que t'aimes faire les deux premières heures de ta journée?
On n'est pas des bons exemples, les skieurs. Non, je rigole.
Pourquoi?
Boire un grand café, déjà. Pendant les 20 premières minutes de ma journée, je pense que c'est boire un grand café. On va prendre l'exemple sur un hiver, tu vois, par exemple. Enfin, sur une journée hivernale. Boire un grand café, me préparer, reboire un café. Okay. Et non, et l'excitation, peut-être... J'ai pas de routine, en fait. Enfin, c'est un peu dur pour répondre à cette question parce que j'ai pas vraiment de routine. Mais, ouais, pour reprendre depuis le début, je pense que ce serait, ouais, boire un café, ensuite me préparer, rejoindre l'équipe avec qui tu vas à faire tes journées. Mmh. Tu vois, c'est un moment hyper excitant. Mais ça se passe dans la... C'est en général, tu te lèves à 7h, à 8h15, tu rejoins tes potes et à 9h, t'es sur les pistes, quoi. Ouais. Et c'est ce moment où tout le monde se rejoint. C'était ce matin, t'as un peu de l'énergie, t'es content, machin, ça va être cool. Et après, c'est la découverte de la journée. Et ça, je kiffe. C'est cool. Et que ce soit en ski ou en vélo. Je pense que c'est un peu pareil. C'est... Des fois, tu planifies des trucs. Et en fait, bah, quand tu arrives devant les faits, tu dis, OK, là, c'est que ça va être comme ça aujourd'hui.
Ouais.
Mmh. Et c'est un peu... Ouais. Mais c'est un peu dur à répondre comme question. OK. Pour quelqu'un qui n'a pas de routine.
Et tu fais quoi pour prendre soin de toi et de ton mental?
Je m'entoure des bonnes personnes. Je pense que... Il y a un truc qui joue énormément dans ma vie pour que je sois bien mentalement, c'est d'avoir un entourage de bonnes personnes. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais d'être entouré par des vrais amis et d'avoir un cercle social stable, au-delà de mes compétences techniques, sportives, tout ça. En fait, quand je suis arrivée à Chamonix à 8 ans, je me suis fait mal direct et derrière, j'ai bossé à Cham pour gagner des sous à l'époque et j'ai rencontré des gens de l'extérieur, souvent enfin, des chamoniards, mais aussi des Suédois, des Anglais. Et en fait, c'est devenu ma famille, mais vraiment. Et j'ai plein de potes dans mon entourage qui sont vraiment devenus des piliers fixes. Tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des années, surtout quand je faisais la compète, ben en fait, la chose la plus importante, c'était mes potes. Parce que quand tu rentres de compète, que ce soit bien passé ou mal passé, ben eux, ils sont toujours là. Mmh. Et que si tu te fais mal, ils sont toujours là. Et je pense que pour que je sois bien dans ma tête, il faut que j'ai un cercle social qui soit très stable. Enfin, ou très stable. Ou que j'ai des potes, des vrais potes, quoi.
Okay.
Et de la famille aussi. Ça, enfin, quand je dis cercle stable, c'est ma famille aussi, ils jouent beaucoup, tu vois. Mon copain, ça joue énormément dans ma santé mentale.
Ok. Et c'est quoi les qualités que tu vas rechercher chez quelqu'un pour justement que ce soit quelqu'un qui te fasse du bien?
Bah, des gens entiers, je dirais. C'est des gens qui puissent pas faire, enfin qui fassent pas de sport ou qu'ils en fassent grave, c'est pas grave, tu vois, mais juste qu'on soit en accord sur des valeurs humaines et que ce soit des gens entiers, ouais.
Ok.
Et on s'est vraiment aperçu, enfin, on se rend compte de ça parce qu'on vit dans un milieu où on perd quand même beaucoup de gens. Enfin, tu vois, on a perdu, on est jeune et moi j'ai déjà perdu trop de potes, quoi. C'est vraiment pas des, on va dire, on n'a pas une vie normale à ce sujet-là. À 25 ans, on a déjà perdu beaucoup trop de copains et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment ta famille et du coup, tu perds des piliers un peu au long de ta vie. Et heureusement qu'il y en a d'autres qui sont très solides, quoi, parce que sinon, sans ça, ben, enfin, ce serait super dur d'avancer.
Ouais, j'imagine.
Et du coup, ça, en fait, je pense que quand t'es bien dans ton cerveau, dans ta vie à toi, donc moi j'ai une maison, enfin je suis bien, quoi. J'ai des amis, j'ai ma vie sociale, elle est là derrière. Que en fait, tout ce que je fais, c'est du bonus pour que ça aille mieux.
Ouais.
Parce qu'en soi, bah, certes, le ski, ça me rend heureuse et c'est ce que je fais, c'est mon métier. J'en suis trop fière que ce soit mon métier, tu vois. Mais si demain je me blesse ou j'en sais rien, il arrive un truc et que je dois arrêter, ben je sais que ça va être dur, ben, évidemment. Mais j'ai quand même un cercle, j'ai quand même un socle stable qui me permettra de continuer à vivre, quoi. Je vais pas me retrouver dans le néant.
Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Là, je suis en train de lire un bouquin, la biographie de Michael Jordan. Et il y a un truc qui dit, c'est que tu, avec le succès, justement, des fois, tu déconnectes un peu de ce type de plaisir simple et des gens qui sont tes amis, pas qui sont en doigt, les gens entiers dont tu parles, tu vois. Et c'est dur, tu vois, dans une vie remplie d'adrénaline et de, où tu vas chercher des émotions, tu vas chercher des portraits, tu vas chercher des images, tu vas chercher de, plein de sensations fortes, de se reconnecter avec des choses beaucoup plus, ouais, simples et authentiques, ouais. Tu vois.
Bah, parce qu'en fait, au final, le jour où t'arrêtes, tu prends ta retraite, bon, oui, certainement qu'on restera un peu dans le milieu parce que ben on est des passionnés de sport, donc enfin moi clairement je me vois pas travailler dans la finance demain, mais je ferai certainement partie et je reverrai des gens que j'ai vus pendant mes années de ski, de compète, de tout ça, mais c'est tes potes qui restent, quoi. Enfin, c'est tes potes et c'est ta famille aussi. Ta famille, ils sont toujours là pour toi, donc et c'est des demain, si j'ai fait un choix de vie complètement différent et que je décide de bosser dans un autre milieu, mes potes, ils seront complètement derrière moi, ma famille, ils seront derrière moi, et ça, c'est super important. Mmh. Alors que bah, peut-être que ton meilleur fan, qui était fan de toi parce que tu faisais des dunks comme un ouf, et bah, du coup, il va peut-être pas te suivre autant que tes proches dans tes choix personnels de vie.
Ouais, je vois, carrément. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Je regarde mes petits sujets, mais...
On n'a pas trop parlé de l'enfance, mais je sais pas si tu voulais en parler.
Bah, des fois, je commence... Si, je suis quand même obligé de te poser la question, parce que je l'ai posée 250 fois et je peux pas ne pas la poser, mais... Là, on a commencé direct et c'était très bien comme ça, mais normalement, la question que je pose pour commencer, du coup, ça clôturera un petit peu, c'est... quel est ton premier souvenir de sport?
Je pense que mon premier souvenir de sport, c'est d'être au club de ski avec 15 micro-enfants comme moi. On devait avoir 4 ou 5 ans. On était au club et notre entraîneur, il nous avait amené dans la poudreuse. Et à l'époque, on n'avait pas des skis de poudreuse. On avait, enfin, même d'ailleurs, aujourd'hui, à 4 ans, t'as pas des skis de poudreuse. Et tout le monde tombait. Et je me rappelle que, genre, c'était, on aurait dit un champ de tir. T'avais tous les enfants qui étaient par terre et à 4 ans, 5 ans, t'arrives pas à te relever.
C'est vrai.
Ça gueulait partout et je me rappelle, et l'entraîneur d'ailleurs que j'avais, il est encore entraîneur au club et je l'ai recroisé il y a quelques hivers avec plein de mignons derrière lui. Et je m'étais trop marrée, je m'étais dit, ça me rappelle trop quand on était gamin. Voilà, je pense en ski être tombé dans la poudreuse.
Mais c'est marrant cette métaphore du chantier avec toutes les cibles par terre, je vois exactement. Et c'est vrai que tu vois la première fois quand t'es parent et même en dehors, tu vois les premières séances de ski pour des enfants, parce que bah là c'était au mois de mars, je devais partir avec mon fils, mais j'étais avec un pote aussi qui était avec son fils. Et lui, il l'a inscrit, c'était la première fois qu'il faisait du ski, et tu vois, nous, on allait regarder, tu vois. C'est vrai que c'est un peu un carnage.
Bah ouais. Au début, c'est compliqué, hein.
Bah ouais, au début, tu chouines, il fait froid, les enfants, ils terminent, ils disent, j'ai plus envie de recommencer.
Ouais, moi, je suis monitrice de ski et j'ai pas mal bossé avec les enfants. Okay. Enfin, avec les enfants, avec tout d'ailleurs, mais. Et des fois, c'est tellement drôle, mais tu te dis, mais c'est pas possible, genre, ils vont être dégoûtés de ce sport. Moi, non, ils reviennent chaque année.
Ça c'est marrant, c'est un truc qu'on inflige.
En vrai, c'est horrible le ski, t'as froid, t'as mal aux pieds.
Pour les enfants, ouais.
T'es trempé.
C'est dur l'apprentissage.
Ouais. Si t'es gamin, tu te fais pipi dessus une fois sur deux, tu vois. Enfin, genre, en soi, le concept est quand même complètement genre ouf. Mais en général, ça fait des passionnés. Et t'es bien content d'avoir commencé à skier à 4 ans et pas à 40, je pense.
Ouais. Ouais, après, t'as trop peur. Ouais. T'as trop peur de la vitesse.
Ah bah, c'est trop dur d'apprendre un sport quand t'es plus âgé.
Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, c'est un peu violent, quoi.
Ouais. Mais même nous, des fois, hein, même moi dans ma discipline, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Des fois, il fait moins 25, t'es dehors, t'as le visage, il est gelé, t'as froid aux pieds, t'as mal aux pieds. Y a rien qui va et pourtant, tu kiffes, quoi. Des fois, franchement, si tu réfléchis à ce que tu fais, tu te dis, mais en fait, on est taré,
ouais.
Quoi.
Ouais. Mais je le disais à Victor Davier, tu vois, là, il y a deux jours, c'était. Moi, je suis moins casse-cou, tu vois, et du coup, je prends moins de plaisir à surfer et à skier. Mais aussi, je suis beaucoup plus dans ma zone de confort. Enfin, comme effectivement, j'ai la chance d'avoir, tu vois, un appartement aux Arcs où je peux aller, tu vois, régulièrement. Et Bah, quand il fait moche,
je n'y vais pas.
J'ai réfléchi à deux fois, quoi. Ouais. Donc,
ça, c'est l'avantage aussi d'avoir arrêté les compètes pour moi. S'il fait vraiment dégueu, je vais plus skier. Je ne me force pas, tu vois. Il n'y a personne qui vient toquer chez moi pour me dire, il faut que tu ailles skier. Donc ça, c'est vraiment un bonheur aussi.
Et t'as plus de coach? J'imagine, avant, tu avais des séances avec un entraîneur ou tu faisais...
Avant, j'avais un prep physique, un prep mental et un coach en ski.
Okay.
Parce qu'en fait, au début, j'avais personne en freeride. Et j'avais quand même pour objectif de faire des super résultats. Enfin, j'avais envie de faire des bons résultats. Et du coup, je me suis fait mal aussi au passage. Et du coup, c'était un peu paumé dans la tête. Je me suis dit, bon, il faut que... Ce milieu du freeride était un peu nouveau pour moi. Donc, j'ai pris un coach en ski. Enfin, qui a un club de freeride, en fait. À Cham. Et du coup, on s'entraînait avec lui. Et lui, il m'a bien permis aussi de me mettre dans des cases et de faire les choses bien, tu vois. Et après, j'avais un prep mental. Avec qui j'ai pas bossé longtemps, mais ça m'a beaucoup aidé, c'était cool. Ça me permettait de faire surtout pas mal de visualisations pour visualiser des lignes, visualiser des sauts. Je suis assez nulle en freestyle, donc du coup, ça m'a aidé un peu à imaginer aussi comment tu faisais des rotations et tout ça.
Ok.
Je suis restée pas très forte en freestyle, mais ça fera rire certains, je pense. Et donc, ouais, là, ça m'a pas mal aidé la prep mentale pour ça. Et prep physique, ouais, pendant un moment, j'ai eu un prep physique. Ça me permettait aussi d'avoir sur le papier un truc. Parce que moi, j'aime bien faire de la prep. Même moi, j'aime bien me faire mes séances. Mais en fait, des fois, tu sais pas si c'est. Enfin, j'ai un peu des bases quand même sur le corps et ce qu'il faut travailler. Mais c'est toujours bien aussi d'avoir quelqu'un qui te dit fais ça. Et puis, tu fais tes 15-20 séances dans l'automne et c'est cool.
Ok.
Voilà. Mais okay. Non, j'ai plus personne maintenant. J'ai moi-même.
Free.
J'ai moi-même.
Ok. Bah écoute, merci beaucoup Juliette.
Merci à toi.
Je crois qu'on se recroise demain. et d'ici là, bah, j'ai envie de te dire bonne promo, bon ski. Qu'est-ce que je peux te souhaiter d'autre?
Qu'il y ait de la neige qui tombe cet hiver.
Je crois que ça a bien commencé, non?
Ouais, ça va, c'est pas mal. Je peux encore aller skier.
On m'a dit année exceptionnelle. Donc,
J'espère. J'espère que c'est quoi, il faut que les abeilles, elles soient... Faut qu'il n'y ait pas eu trop d'abeilles cet été. On n'en a pas trop vu.
Ah ouais?
Ouais, il y a un truc comme ça, avec les abeilles ou les guêpes, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est.
Waouh.
On va croiser les doigts.
Là, j'ai envie de repartir pour 20 minutes de podcast. C'est quoi cette histoire d'abeilles? On ne m'a pas dit.
Bon, merci en tout cas.
Mais écoute, c'était génial. J'ai trop hâte de voir ce film maintenant que je connais un petit peu l'histoire. Et du coup, bah, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite.
Merci. À toi aussi.
Et à très vite.
Sois relax.
Ouais, t'inquiète.
Merci.
Je prends toutes les bonnes énergies. Eh bien, merci en tout cas à tous les auditeurs qui nous écoutaient jusque là. Allez suivre Juliette sur les réseaux sociaux. Allez regarder le film Rise, notamment après janvier. Vous pourrez aller le trouver sur YouTube, j'imagine, sur les réseaux sociaux de Juliette. Et sinon, avant, il faudra aller sur les différents festivals de films de montagne. Je vous mettrai les liens dans la description pour que vous sachiez où aller les voir. Merci encore d'être là, on vous embrasse tous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.